VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 24 octobre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
En République centrafricaine, appel de la société civile à une journée ville morte, aujourd'hui à Bangui.
Au Cameroun, journée de deuil ce lundi en mémoire des nombreuses victimes du déraillement d'un train sur la ligne Douala-Yaoundé.
Les forces irakiennes ont progressé hier en direction de Mossoul, malgré les tireurs embusqués et les explosions de voitures piégées.
Début d'évacuation aujourd'hui de la jungle de Calais, immense campement de milliers de migrants dans le nord de la France.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RCA, la société civile appelle à une journée ville morte ce lundi à Bangui. Cet appel a suscité la colère du gouvernement. Le point avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Le groupe de travail de la société civile veut, à travers cette journée ville morte, exiger le retrait de la MINUSCA, la force de l'ONU, dans le pays. Les leaders de cette organisation accusent les casques bleus de non-respect de leur mandat, entre autres la réduction de la présence des groupes armés et la protection des civils. Gervais Lakosso, un des leaders de la société civile.
Nous demandons le départ de la MINUSCA aujourd'hui parce qu'ils ont failli et doublement failli à leur mission. Ils sont là pour protéger la population civile, ils sont là pour réduire la présence des groupes armés, mais les populations civiles meurent chaque jour et devant eux. Et il y a eu une montée en puissance des groupes armés. Pour nous, leur présence ici est inutile.
Le gouvernement n'a pas caché sa colère. Dans une déclaration, il invite les centrafricains au boycott de cet appel. Théodore Jousseau, son porte-parole.
Il y a lieu de s'interroger sur les motivations qui tendent à soutenir l'organisation de cette ville morte. Ville morte pourquoi ? Ville morte pour qui ?
Une pétition de la société civile est en circulation depuis la semaine dernière dans le pays pour exiger le retrait des casques bleus de la MINUSCA, une pétition qui aurait déjà recueilli plus de 30 000 signatures en 72 heures. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Journée de deuil ce lundi au Cameroun en mémoire des victimes du déraillement d'un train qui a fait au moins 75 morts vendredi sur la ligne Douala-Yaoundé. Précision de Timothée Donangmaï.
De retour dimanche d'un voyage à l'étranger, le président camerounais Paul Biya a promis une enquête approfondie pour faire la lumière sur cette tragédie. Il a aussi ordonné la prise en charge des blessés par l'État. Le gouvernement a de son côté lancé un appel aux dons de sang en faveur de quelques 600 blessés. Les services de secours sont à pied d'œuvre sur les lieux de l'accident à la recherche d'autres corps. L'accident a eu lieu près d'Ezeka, à 120 km de Yaoundé, et l'acheminement des corps vers la capitale politique et Douala, la capitale économique, complique les recherches entreprises par les familles. Même chose pour les blessés, l'hôpital d'Ezeka comptant à peine 60 lits. Le train accidenté transportait plus de 1400 personnes, soit plus du double du nombre en temps normal. Des rames additionnelles avaient dû y être rajoutées face à une demande accrue liée en partie au fait que les transports routiers avaient été bloqués par l'effondrement le 21 octobre d'un pont sur la principale route reliant Yaoundé et Douala.
Au Nigeria, l'armée a déjoué une tentative de détournement d'un navire dans le delta du Niger, dans le sud du pays, et elle a arrêté, lors d'un incident séparé, 5 auteurs d'actes de vandalisme contre des installations pétrolières, a annoncé hier un porte-parole militaire. L'armée nigériane a récemment répondu à des appels à l'aide de certains voyageurs dans la région attaquée par des pirates, dans les états de Cross River et de Rivers, tuant les attaquants et portant secours aux victimes.
En Somalie, les islamistes de l'organisation Al-Shabaab se sont emparés hier d'une autre ville du centre Algan, dont venaient de se retirer les soldats de l'AMISOM, la force de maintien de la paix de l'Union africaine. C'est ce qu'ont rapporté un porte-parole des Shabaab et un député de la région. Algan, dans la région de Iran, est la troisième localité à tomber aux mains des insurgés depuis le début du mois. Dimanche, le contingent éthiopien qui s'y trouvait a quitté la ville, ce qui a permis aux islamistes d'y pénétrer peu après, a déclaré le porte-parole des Shabaab.
Début d'évacuation aujourd'hui de la jungle de Calais, immense campement de milliers de migrants dans le nord de la France. Il s'agit d'un processus complexe, en particulier pour les jeunes isolés, venus pour la plupart d'Afghanistan, du Soudan et d'Érythrée, cantonnés dans ce vaste bidonville face aux côtes anglaises dans l'espoir de traverser la Manche. 6 000 à 8 000 migrants vont être dispersés dans des centres d'accueil répartis sur tout le territoire français.
Après une semaine qui a vu quelque 8 500 migrants secourus au large de la Libye et au moins une cinquantaine de morts ou disparus, l'Italie se prépare à accueillir ses nouveaux arrivants avec une inquiétude particulière pour les nombreux mineurs non accompagnés. Les gardes-côtes italiens ont annoncé avoir coordonné le sauvetage d'environ 400 migrants hier au large de la Libye. Deux navires ont débarqué dans la journée, plus de 460 personnes secourues les jours précédents à Naples et 625 autres en Sicile.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces irakiennes ont progressé hier en direction de Mossoul, malgré les tireurs embusqués et les explosions de voitures piégées, tout en essayant de contrer les attaques du groupe État islamique à Kirkouk et ailleurs dans le pays. Quelques 10 000 combattants kurdes, éléments clés dans la bataille de Mossoul, ont avancé pour reprendre la ville de Bashika, au nord-est du dernier bastion des djihadistes en Irak.
La Turquie a affirmé que les Peshmerga avait requis son aide. Elle a indiqué avoir fourni un soutien avec de l'artillerie, des chars et des mortiers depuis la base de Bashika, où elle maintient des soldats pour entraîner des forces irakiennes en vue de la reprise de Mossoul. La veille, le premier ministre irakien Haider al-Abadi avait rejeté toute participation turque dans cette opération.
Et au-delà de Mossoul, les États-Unis, qui mènent une coalition internationale anti-djihadiste, ont indiqué vouloir lancer rapidement une opération parallèle pour déloger le groupe État islamique de la ville syrienne de Raqqa. C'est ce qu'a indiqué le chef du Pentagone, Ashton Carter, au cours d'une visite en Irak.
En Syrie, les affrontements ont repris à Alep entre les forces du régime syrien et les rebelles, et ce, au lendemain d'une trêve de 3 jours décrétée par la Russie. Cette pause humanitaire devait permettre aux habitants et aux rebelles qui le souhaitaient de quitter les quartiers est où vivent quelque 250 000 personnes. Au final, seuls 8 combattants blessés et 7 civils auront quitté le secteur rebelle.
Ici, aux États-Unis, à 2 semaines de l'élection présidentielle du 8 novembre, Hillary Clinton a encore accru son avance dans les sondages face à Donald Trump. Selon une enquête ABC News publiée dimanche, la candidate démocrate obtient 50% des intentions de vote, son score le plus élevé depuis le début de la campagne, contre 38% pour le candidat républicain. Nous reviendrons sur cette course à la Maison-Blanche dans la seconde partie de cette édition.
Le Parlement du Venezuela, dominé par l'opposition, a accusé hier le pouvoir du président Nicolas Maduro d'avoir perpétré un coup d'État en suspendant le processus de référendum révocatoire contre le chef de l'État vénézuélien réclamé depuis des mois par l'opposition. Au cours d'une séance houleuse de 4 heures, suspendue pendant 45 minutes à la suite de l'éruption dans l'hémicycle de partisans de M. Maduro, le Parlement a appelé les citoyens vénézuéliens et la communauté internationale à défendre la démocratie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, John Linden.
La principale compagnie aérienne du Nigeria entend attirer de nouveaux investisseurs privés, puis envisage une introduction en bourse à Lagos et à Londres en 2017. Cet appel au financement extérieur permettra à Arik Air de compenser le ralentissement économique qui frappe durement le Nigeria. Avec la dévaluation du Naira, le principal transporteur aérien du Nigeria souhaite à la fois s'ouvrir à l'international et atténuer l'impact de la récession qui frappe le pays depuis le 1er septembre 2016. En Côte d'Ivoire, la bouteille de gaz butane en alliage en fibre de fer introduite par la SAFIR, la Société africaine de pétrole et d'hydrocarbures raffinés, a lancé son centre remplisseur ultra moderne,
la toute première unité opérationnelle de la nouvelle zone industrielle du PK24 à Abidjan. D'une capacité de 2500 bouteilles par jour, l'unité entièrement automatisée permettra de fournir le marché ivoirien en gaz domestique. La Banque européenne d'investissement s'installe au Cameroun selon le Financial Afrique, la BEI, dont l'activité est axée à plus de 90% sur l'Europe, a ouvert un bureau régional à Yaoundé. Cette représentation permettra à l'institution financière de renforcer l'appui européen aux grands projets d'investissement, aussi bien au Cameroun que dans la région Afrique centrale.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Final retour de la Ligue africaine des champions, Mamelodi Sundowns, sacré vainqueur.
Oui, pas de miracle pour le Zamalek. Battu à l'aller 3-0, le club égyptien n'est pas parvenu à renverser la vapeur à domicile. Lors du match retour, Zamalek s'est imposé 1-0. L'unique but est l'œuvre du Nigérian Stanley Owawuchi à la 64e minute du jeu. Mamelodi Sundowns avait remporté le match aller 3-0 et s'impose donc sur l'ensemble des deux matchs. Score final 3-1. Le club sud-africain s'offre ainsi sa première Ligue des Champions après son échec en 2001 face à l'autre club égyptien, le National du Caire. L'équipe entraînée par Pissot Mosimane, deuxième club sud-africain à avoir remporté ce trophée après Orlando Pirates, va ainsi représenter le continent lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs de la FIFA prévue au Japon du 8 au 18 décembre.
On reste sur le continent pour faire le point de quelques championnats.
On démarre par le Togo, septième journée, et l'AS Togo Port consolide sa place de leader suite au match nul de son déplacement à Dito 0-0. Pikenti n'a pas su profiter puisque accroché à domicile 0-0 par le Fouada de Dapa. Cette septième journée a connu deux victoires. D'abord, Unisport vainqueur de Koroki 4-1 et de l'Asco de Kara qui a eu raison de l'équipe de Nosté Ange FC 1-0. Cinquième journée en RDC. Dans la zone ouest, l'ASV Club est désormais leader suite à sa victoire de 5-1 face à l'AS Ndombé. Dans ce groupe, l'AS Dragon est tombé devant MK qui enregistre du coup sa première victoire de la saison. A noter que la zone est est dominée par Dauphin Noir alors que c'est le tout puissant Mazembe de Lumbashi qui est leader de la zone sud-centre. Les Corbeaux vont d'ailleurs jouer Sanga Balende ce mardi en attendant la finale aller de la Coupe de la Confédération face à Mo Béjaïa. Le club de Kabyle reçoit d'ailleurs ce soir le MC Alger, un championnat algérien dominé par l'USM Alger, vainqueur de la jeunesse sportive de Kabylie 2-1. Son dauphin MC Oran a eu raison de Youssende 1-0, but de Bentiba.
Cyclisme à présent, Élisée, avec le mini-tour du Niger qui a pris fin hier.
Oui, un mini-tour parce qu'il n'y avait que 23 concurrents. Mais une épreuve qui marquait le retour des compétitions cyclistes 12 ans après la suspension du Niger par l'Union cycliste internationale. Sanction levée le 14 octobre dernier. Un tour de la renaissance selon la fédération qui a donc permis à un jeune Nigérien de s'imposer. Son nom, Amidou Gandou, 18 ans, qui remporte ainsi ce mini-tour en attendant le grand tour du Niger prévu en décembre prochain. Gandou remporte 6 des 8 étapes et s'impose au classement général devant Mamadou Seni.
Du handball pour finir avec le championnat d'Afrique des clubs champions. Le tournoi se déroule actuellement à Ouagadougou.
Effectivement, Idrissa, quatrième journée aujourd'hui chez les dames. L'Espérance de Tunis joue les Rwandaises de police. Et au niveau des hommes, on aura le choc Espérance à la Ligue. Pour les résultats de la troisième journée dans le groupe A chez les dames, les Congolaises de Mikishi ont dominé les Béninoises d'Aspak 29-26. Deuxième défaite de rang pour les Portugais. Les tenantes du titre, les Angolaises de Primeiro do Agosto, logique vainqueur des Camerounaises de TKC, 36-19. Par contre, chez les hommes, lâche victoire des Camerounais de Minu, 44-24 face aux Rwandais de police. Les Égyptiens de Al Ahly du Caire ont été sans pitié sur les Congolais de Caïman, score 34-23. Et puis dans le groupe B, les Ivoiriens de Resta ont enregistré leur deuxième défaite dans cette compétition, cette fois face aux Camerounais de FAP, 24-21.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la police nationale a mis fin aux activités d'un réseau de recruteurs de jeunes pour des actions de terrorisme dans le pays et ailleurs. Ce réseau avait son camp de base à Kilouin, un quartier périphérique de Ouagadougou. L'opération de la police a permis d'abattre un des membres du groupe et les autres sont recherchés. Les détails avec notre correspondant sur place, Zoumana Wonogo.
C'est grâce à la collaboration des habitants du quartier Kilouin que la police a été informée des agissements du réseau de recruteurs de jeunes terroristes. Elle a alors décidé d'agir, explique Lazare Tarpaga, le directeur général de la police.
Nous avons donc essayé de suivre les traces et de pouvoir remonter pour savoir si nous pouvons mettre la main sur ceux qui viennent pour effectuer ces recrutements. Ce qui nous a donc conduit à plusieurs domiciles et nous avons débusqué le lièvre que nous avons poursuivi. Et nous avons essuyé des tirs, nous avons riposté. Nous sommes toujours en train de rechercher au moins 3 autres personnes, aussi bien ici à Ouagadougou qu'au niveau de Bobo-Dioulasso.
Pour Maïsa Sérémé, le procureur général du Faso, les effets laissés par les recruteurs vont être d'un apport inestimable dans la poursuite de l'enquête. Maïsa Sérémé, procureur général.
Nous avons un sac qui contient des portables, qui contient différents effets que nous allons exploiter pour essayer de retrouver les ramifications avec les complices qui se trouvent à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Nous allons exploiter les différents coups de fil à travers les téléphones portables qui ont été passés pour essayer de retrouver tous ceux qui sont impliqués dans ce recrutement de nos enfants.
Le ministre de la Sécurité, sans vouloir en dire plus, salue la collaboration des populations. Suivons le ministre Simon Compaoré.
Quelques éléments ont été appréhendés et tout cela, comme on a dit, il faut éviter d'en dire trop. Ce qu'on doit rechercher, toutes les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse et la population est en train de collaborer efficacement. Donc l'un dans l'autre, pouvons dire qu'à nouveau, Dieu a agi et agi puissamment. Nous avons neutralisé ce qui aurait pu faire couler le sang dans notre pays.
Soumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Tchad, le collectif contre la vie chère appelle la population de N'Djamena à observer aujourd'hui une journée ville morte. C'est pour protester contre les mesures prises par le gouvernement pour redresser les finances publiques, le manque de régularité dans le paiement des salaires des fonctionnaires, mais aussi pour exiger la reprise des activités scolaires et académiques. Idriss Fall a joint Digam Naël Nelly vers Sénis, président du collectif contre la vie chère à N'Djamena.
Depuis quelques mois, les Tchadiens vivent un calvaire sans précédent, celui de conditions sociales précaires dans laquelle l'écrasante majorité de la population tchadienne se trouve confrontée. Et pour combattre cette situation créée, entretenue par nos dirigeants contre notre survie et la prise d'otage des ressources nationales, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Aujourd'hui au Tchad, ce n'est pas le cas. Le pays est mort. Le collectif tchadien contre la vie chère appelle toute la population de N'Djamena à observer une journée ville morte ce lundi 24 octobre 2016 de 6h à 16h dans la ville de N'Djamena. C'est une ville morte contre les 16 mesures. Ville morte contre le gel des bourses des étudiants. Ville morte contre la corruption érigée en système de gouvernance. Ville morte contre la mauvaise gestion des ressources nationales. Ville morte contre le non-paiement régulier des salaires des fonctionnaires et la bourse des étudiants. Ville morte contre le détournement des deniers publics. Ville morte contre des capitaux placés dans les paradis fiscaux. Ville morte contre la non-reprise des activités scolaires et académiques. Ville morte contre le non-paiement des créances des opérateurs économiques. Ville morte enfin contre la sécurité de la vie.
C'est une sorte de grève générale, quoi. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à paralyser N'Djamena aujourd'hui?
Je crois bien parce que la situation est déjà paralysée. Le pays est déjà malade. Il ne reste que seulement à l'amener à l'hôpital, au pavillon d'urgence, savant que c'est une action qui va s'étaler dans la durée d'une manière répétitive. Donc c'est également une manière de conscientiser la population à prendre son destin en main. Il y a un Néadec de chez nous, un sac vide ne peut se tenir debout. Le Tchadien n'arrive même pas à manger à sa faim, n'arrive pas à s'éduquer. À quoi bon alors de continuer à croiser les bras ou bien attendre son cercueil à la maison? Il faut sortir.
Le gouvernement dit n'avoir pas tellement de moyens parce que le prix du baril de pétrole a chuté.
Le Tchad n'est pas le seul pays qui exploite du pétrole. Quand on gouverne, on prévoit. Quand on pompait encore le pétrole, le prix du baril était à 100 quelques. Qu'est-ce qui empêchait nos dirigeants à épargner de l'argent? Qu'est-ce qui empêchait nos dirigeants à avoir une caisse d'instabilité? Donc, le résultat que nous vivons aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance. Et le gouvernement est le seul responsable. Il connaît là où se trouve l'argent. Donc, il n'a qu'à rapatrier l'argent pour faire fonctionner l'appareil de l'État.
Digam Nayel Nelly Versis, président du collectif Tchadien contre la vie chère.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Pour rester au Tchad et concernant l'Union africaine, c'est officiel maintenant, le ministre tchadien des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat est candidat au poste de président de la commission de l'organisation panafricaine. Il a tenu un point de presse pendant le week-end à N'Djamena pour l'annoncer. De la capitale tchadienne, André Kodmajingar.
Candidature incitée par les pays voisins et entérinée par les hautes autorités du Tchad, Moussa Faki Mahamat se dit fier d'être le premier Tchadien à postuler pour la présidence de la Commission de l'Union africaine dans l'histoire de cette organisation créée il y a plus de 50 ans aujourd'hui. Doctorant en thèse de droit public à l'Université Paris 13, Moussa Faki Mahamat a assuré plusieurs fois les hautes fonctions politiques nationales et sous-régionales, entre autres, directeur de cabinet civil du président de la République de 1999 à 2002, premier ministre chef du gouvernement de 2003 à 2005, puis chef de la diplomatie tchadienne depuis bientôt 9 ans. Il affirme avoir la capacité et les compétences nécessaires pour briguer cette fonction.
En ma qualité de ministre des Affaires étrangères, j'ai suivi de près et parfois contribué à la réflexion et à l'élaboration de tous les grands dossiers de l'Union africaine ces 8 dernières années. Tout au long des différentes fonctions politiques et administratives que j'ai eu à exercer, j'ai été servi par le leadership incontesté du président Idriss Déby Itno en Afrique, qui a donné un rayonnement inédit à la diplomatie tchadienne.
Le chef de la diplomatie tchadienne déroule déjà son plan d'action si les chefs d'État et de gouvernement lui font confiance en janvier 2017.
Toutes les actions que je mènerai seront tributaires de l'environnement dans lesquels baigne l'Afrique. Un environnement caractérisé aujourd'hui par la violence et le terrorisme au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, en Somalie, en Libye, ainsi que par les crises pré- et post-électorales. Il faut que l'Afrique cesse de dépendre de l'extérieur pour sa sécurité physique comme de sa sécurité alimentaire. Ce sera le credo de mon action car je suis convaincu qu'une Afrique qui dépend exclusivement de l'extérieur ne pourra pas évoluer dans le bon sens.
Pour le professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste indépendant et politologue, Moussa Faki Mahamat a peu de chance.
Le droit international a une certaine pratique des usages et des traditions qui sortent des règles de l'objectivité pour essayer d'aménager les susceptibilités sous-régionales. La question de la géopolitique sous-régionale risque de jouer en défaveur du candidat tchadien. Madame Zuma, qui finit son mandat, est de l'Afrique australe et elle a remplacé Monsieur Jinping, qui est de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, après Madame Zuma, on revient encore en Afrique centrale. Franchement, ça m'étonnerait. À moins que les chefs d'État dépassent un peu les fiertés nationales, le chauvinisme, les questions des petits regroupements linguistiques sous-régionaux. En tout cas, si la recherche de l'efficacité y est, M. Moussa Faki a des chances.
André Kodmajingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton, confiante dans ses chances le 8 novembre, tente d'aider les candidats démocrates aux législatives. Pour sa part, le chef du parti républicain, Rance Priebus, bat une nouvelle fois le rappel des troupes en faveur de Donald Trump, le candidat de son parti à la Maison-Blanche. Le point avec Timothée Donangmaï.
La démocrate Hillary Clinton peut déployer des efforts en faveur des autres candidats démocrates dans la mesure où elle bénéficie du concours de plusieurs personnalités démocrates, notamment des occupants actuels de la Maison-Blanche. Selon son porte-parole, elle battra campagne cette semaine et pour la première fois avec la première dame Michelle Obama lors d'une visite à Winston-Salem en Caroline du Nord. Le président Obama, lui, se rendra dans le Nevada pour plaider la cause de Mme Clinton, mais aussi appuyer la tentative de son parti de reprendre le contrôle du Sénat. Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Harry Reid du Nevada, prend sa retraite après un cinquième mandat et les démocrates entendent tout mettre en œuvre pour conserver son siège.
Alors que les démocrates font front commun dans cette campagne, les républicains ont encore du mal à resserrer les rangs autour de leur candidat Donald Trump.
Tout républicain doit soutenir le candidat nommé par le parti, à savoir Donald Trump, a martelé dimanche le chef du parti républicain, Reince Priebus, preuve de la vive préoccupation du camp républicain. Priebus, qui prédit une victoire de Trump le 8 novembre, a défendu le refus controversé de son candidat de s'engager à accepter les résultats des élections avant de les avoir vus. Donald Trump fait allusion au cas où le vote serait serré et où quelques centaines de voix seulement sépareraient les deux principaux candidats, a assuré le président du Parti républicain. L'ancienne gouverneure républicaine de l'Arizona, Jan Brewer, s'est lamentée de son côté de ce qu'elle appelle l'oppression de Donald Trump par toutes ces femmes qu'il accuse de comportements sexuels inappropriés. Trump est soumis à la torture du simulacre de noyade par ces femmes, a-t-elle dit, ajoutant que le tort du candidat républicain est d'être d'une grande franchise.
Démocrates et républicains entendent se battre jusqu'au bout pour rallier les Américains à leur cause.
Nous n'abandonnons pas, nous savons que nous allons gagner, a assuré la directrice de campagne de Donald Trump, Kellyanne Conway, dimanche dans une interview télévisée. Selon Mme Conway, le camp Trump mise sur les électeurs indécis dans les États clés pour remporter le scrutin du 8 novembre. Tout aussi optimiste, Robbie Mook, porte-parole de la campagne de la démocrate Hillary Clinton, a fait savoir qu'il n'est pas question de se limiter aux 270 voix de grands électeurs nécessaires pour gagner. Certes, c'est l'objectif, mais Mme Clinton étend ses opérations dans des États votant traditionnellement pour les républicains, comme l'Arizona, a-t-il fait remarquer. Les récents sondages donnent une avance d'environ 6 points à la démocrate Hillary Clinton.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Life, I body wale, is a lane. Ginger, oh, ginger, ginger, oh, ginger. Where you dance, they make the ginger. Where you roll, they make the ginger. Ginger, Belinda, eh, Belinda, 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 eh, Belinda. Where you dance, they make the ginger. Where you roll, they make the ginger. Ginger, oh, ginger, ginger, oh, ginger. Where you dance, they make the ginger. Where you roll, they make the ginger. Belinda, eh, Belinda. Belinda, yeah, Belinda. The way you dance, it makes me think of. The way you roll, it makes me think of.
I know we live in Linda, yeah. I will love you, Linda. Take you down to Japan, you. Take you down to America. Buy you anything you want. Give you more to God, you want. Fight for you like Jet Li. Give you US passport. See this your back, huh? Baby, I swear I can privatize it. See this your back, huh? Baby, I just to personalize it. See this your back, huh? Baby, can I legalize it? See this your back, huh? Baby, I want to personalize it.
Ginger, oh, ginger, ah, ginger, oh, ginger. The way you dance, it makes it a ginger. The way you roll, it makes it a ginger.
Whiskey de la star nigériane qui a remporté plusieurs prix au MTV African Music Awards. Voilà, c'est tout pour Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Merci d'avoir suivi cette édition matinale. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.